कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
नमस्ते, बोन्जोर en népalais, car cette semaine nous partons au Népal. Situé à 7183 km de notre pays, le Népal est enclavé entre la Chine et l'Inde, avec au nord la célèbre chaîne de montagnes de l'Himalaya et au sud les plaines du Terai. C'est un petit pays de 800 km de long sur 200 de large. Avant d'arriver à destination, nous ferons un vol de 10 heures avec une escale au Bahreïn, puis à Muscat, dans le Sultanat d'Oman. La vallée de Katmandou où nous atterrissons se situe sur les contreforts de l'Himalaya, à 1350 mètres d'altitude. On ne peut évoquer Katmandou sans penser aux années 70, aux hippies chevelus qu'on imagine déambulant avec une guitare dans le dos et un joint de marijuana dans le bec. Mais c'est d'abord un trésor du patrimoine mondial. La vallée comprend 7 zones de monuments. Les places de Durbar, centre urbain de 3 villes, Katmandou, Patan et Bhaktapur, avec leurs palais et leurs temples, les ensembles religieux de Swayambhu, Bouddhanath, Pashupati et Shangunarayan. Ça y est, nous atterrissons à Katmandou. Il est 5 heures, heure locale, et il fait beau. Le temps de remplir la feuille de renseignement pour le visa et de récupérer nos bagages, et nous nous dirigeons vers la sortie de l'aéroport. Les chauffeurs de taxi et de rickshaw nous attendent massés sur le trottoir d'en face et nous interpellent dans un brouhaha de klaxons. Nous avons pris soin de réserver un taxi prépaid, comme on dit, c'est-à-dire prépayé à l'aéroport, ce qui évite de nous lancer dans un marchandage sur le prix de la course dès notre arrivée, ou de nous efforcer de convaincre le chauffeur que nous ne voulons pas aller dans le très confortable hôtel qu'il nous conseille et qui lui permettrait de toucher une commission. Bref, nous voilà en direction du Sri Tibet Hotel que nous avons repéré sur notre guide. Durant les 6 km qui séparent l'aéroport de la ville, je découvre un nouveau monde. Ici, plus rien ne ressemble à ce que je connais. Les faubourgs de Katmandou défilent derrière la vitre du taxi. Et dans la nuit qui s'installe, nous longeons des trottoirs où des groupes de gens sont réunis autour de brasseros. Les maisons basses et austères en partie en bois semblent éclairées par des bougies. Un monde fantastique et étrange s'offre à moi. Puis nous arrivons à destination dans le quartier touristique de la ville, Tamel. Nous posons nos sacs dans un hôtel tenu par des Tibétains souriants. Et nous nous imprégnons peu à peu de l'ambiance devant un thé offert par nos hôtes qui veulent tout savoir de nous. « Where you come from ? D'où venez-vous ? » Ils semblent étonnés que des Français s'intéressent à leur pays et sont ravis d'échanger quelques mots avec nous, c'est d'ailleurs réciproque. Puis nous rejoignons notre chambre pour plonger dans un sommeil récupérateur, les 5 heures de décalage se font sentir. Décembre. Nous partons à la découverte de cette ville magique. Mais d'abord entrons dans l'un des restaurants de notre rue pour prendre un petit déjeuner délicieux, constitué de l'incontournable chai, thé local avec des épices et du lait, d'orange juice et de cheese toast. Le français n'a plus cours ici. Et même si on nous adore, c'est en anglais qu'il faut converser. Mis à part quelques célébrités comme Zidane ou Champs-Élysées, les Népalais ont une vision lointaine de notre pays. Le patron, qui ressemble fortement à Mr Bean, nous accueille avec un grand sourire et nous installe à sa meilleure table, près d'une cheminée centrale dans laquelle brûle un sympathique feu de boa. Le soleil est au rendez-vous et malgré l'altitude, nous sommes en t-shirt. Information utile au passage, la monnaie est le roupie népalais et 89 roupies égale 1 euro. Il faut s'habituer rapidement à manier l'argent car les transactions vont bon train dans le pays. À commencer par le moyen de transport local, le rickshaw, scooter avec une banquette deux places à l'arrière. Le tarif pour un trajet se négocie sans compteur au plus persuasif. Des odeurs d'encens et de bois brûlé nous accompagnent. Nous arrivons à Durbar Square, superbe place avec ses temples en briques cuites, pagode à plusieurs étages finement ouvragés, aux fenêtres et portes sculptées dans du bois et aux statues d'idoles et de dieux diverses, fontaines et autres merveilles. Shiva et Parvati, le couple de la mythologie hindoue, nous saluent à la fenêtre de l'un de ces temples. Plus loin, nous croisons la statue d'un dieu effrayant et coloré, devant laquelle une femme allume des bâtons d'encens, cela entre les sadhus, une sorte de prêtre ayant fait le vœu de total renoncement à la société, et les vaches sacrées, qui elles semblent s'habituer à cette même société. Durbar Square est un vestige des vieux royaumes népalais, notamment Newar, les premiers habitants de la vallée. Plus loin, sur le square, nous passons devant le Kumari Baal. Cette maison abrite une déesse vivante pour les Népalais, la Kumari, incarnation de la déesse Taleju, personnifiée par une jeune vierge. Il paraît qu'elle se montre quelquefois à la fenêtre. Pas de chance, nous ne la verrons pas. Puis nous visitons le palais royal. Deux statues de lions nous accueillent à l'entrée richement décorée, qui donne sur une vaste cour gardée par les dieux singes Hanuman. En 2001, ainsi que l'avait prédit à l'époque du drame les astrologues de la cour, le roi Birendra est assassiné par son fils, ivre et furieux du refus que ses parents ont de le voir épouser une jeune femme indienne. Dans cette tuerie, 8 autres personnes périront, dont la mère, le frère et la sœur du prince meurtrier. Les Népalais, qui vénéraient leur roi comme un dieu, seront profondément ébranlés par ce drame. Aujourd'hui, le pays est une république parlementaire de type fédéral. La royauté a été abolie en 2008. Soudain, un attroupement se crée. Un cortège de voitures s'immobilise devant le palais royal. Il s'agit d'une délégation chinoise, me dit un voisin. Apparemment, il ne les porte pas dans son cœur. Peut-être est-il l'un des nombreux réfugiés tibétains qui ont fui leur pays devant le grand frère chinois devenu un peu trop envahissant. Nous faisions une pause pour déguster un délicieux thé citron. Nous entrons dans un immeuble et grimpons un petit escalier jusqu'au dernier étage pour arriver sur la terrasse d'un café situé sur le toit et offrant une vue sur le palais royal, moment privilégié. Nous reprendrons notre visite de la ville en direction du temple de Swayambhunath. Perché sur une colline, celui-ci est visible de loin avec sa grande stupa dorée. Selon la légende, la vallée était un lac immense dans lequel grandit un lotus. Le Bodhisattva Manjushri, je ne sais pas si j'ai la prononciation exacte, sorte de grand sage bouddhiste en tout cas, sentit que la vallée pourrait être un lieu pour les pèlerins humains. Et de son épée ouvrit un passage pour vider l'eau de la vallée. De la tige du nénuphar naquit une colline et de la fleur, le stupa, monument religieux en forme de cloche.
Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
En nous enfonçant dans les bas quartiers, dans la direction du temple, nous ne tardons pas à être perdus dans le dédale des ruelles. Maisons en briques, aux fenêtres finement décorées en bois, portes basses ouvrant sur des passages menant à des cours intérieures. Ici, trois hommes sont assis en tailleur sur une natte, autour d'une sorte de jeu de dés. Plus loin, une vieille femme actionne un métier à tisser. Là, un étal en bois sur lequel reposent des morceaux de viande, des enseignes de dentistes représentant une mâchoire peu engageante. Des échoppes de barbiers à qui d'ailleurs je rendrai visite pour une séance de rasage à l'ancienne, inoubliable. Dans une boutique aussi large qu'un couloir, me voilà maintenant assis sur un fauteuil de coiffeur, attendant que mon barbier coupe-chou à la main s'occupe de moi. Un poste de radio diffuse une musique locale et je me demande si j'ai bien fait de venir. Après m'avoir barbouillé de mousse avec son blaireau, il approche son rasoir de mon cou, je blêmis. À tort, c'est un expert. J'aurai droit à trois passages successifs de blaireau, puis de rasoir, et en prime un massage des épaules et du cou, avant de quitter sa boutique. À chaque coin de rue, nous sentons la présence de la religion. Petit temple fleuri et odeur d'encens, ou stupa blanche, la ville grouille de monde et déborde d'activités. Devantures de magasins chargées d'étoffes ou de mille objets de cuisine, places encombrées de marchands d'épices, de fruits, de fleurs, de poudre aux couleurs vives dans des grands sacs blancs, tout cela noyé dans un concert de klaxons, de moteurs, de mobilettes et de bruits divers. Katmandou est malheureusement une des villes les plus polluées du monde. Enfin, nous arrivons au pied de l'escalier menant au temple. Sur la rambarde en pierre, un singe nous accueille. D'ailleurs, le lieu est surnommé Temple des singes. Après avoir gravi d'innombrables marches au milieu des pèlerins, nous voilà dans le lieu sacré, la grande stupa vieille de 2000 ans. Magnifique avec sa coupole dorée et ornée des yeux de Bouddha, ses drapeaux à prière aux couleurs vives, nous en faisons le tour religieusement, attention à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis nous nous imprégnons de l'atmosphère de l'endroit, les moulins à prière que l'on fait tourner, les moines drapés dans les toges oranges, et toujours des singes facétieux qui profitent du soleil. S'il est une cérémonie impressionnante au Népal, comme en Inde, c'est bien la crémation. Et c'est au temple de Pashupatinath que nous nous rendons maintenant pour y assister. Là, sur les guettes, au bord de la rivière, sont alignées des stèles en pierre sur lesquelles sont brûlés les défunts. Les femmes n'assistent pas à la cérémonie, leurs larmes pourraient faire obstacle à la libération de l'âme du mort. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Après avoir constitué un bûcher, la famille emmène le mort, l'immerge dans l'eau de la rivière et le place sur le bûcher. Le fils, après avoir fait plusieurs fois le tour du bûcher, allume le feu. Puis les restes du cadavre seront jetés dans l'eau. Seuls ceux qui sont morts de mort naturelle ont le droit d'être incinérés. Quant aux sadhus, déjà assurés d'atteindre la libération, ils n'en ont pas besoin. Puis le jour décline. Il faut songer à rentrer à notre hôtel pour préparer la soirée de ce jour de l'an, loin de notre pays. Contrairement à notre calendrier solaire, le calendrier népalais est lunaire. Divisé en 12 mois comme le nôtre, il est cependant plus court d'une dizaine de jours. Le premier de l'an tombe en général en octobre ou en novembre. Cela n'empêche pas nos hôtes de faire la fête avec nous, surtout dans le quartier touristique de Tamel où nous logeons. Je ne le sais pas encore, mais nous allons vivre un moment extraordinaire. Les rues sont rapidement pleines de gens joyeux qui se frayent un chemin entre les voitures. Concerts de klaxons encore, mais ça c'est quotidien. La fête est autant dans la rue que dans les restaurants et les bars, d'où nous parviennent des sons électriques, de musique rock. Allons voir cela de plus près. Si beaucoup de bars sont au dernier étage des immeubles et ont une terrasse. Nous voilà entrés dans l'un d'eux. Ambiance survoltée, un groupe balance du Deep Purple et nous voilà partis à danser avec les jeunes népalais hilars. Ce n'est pas les coupures d'électricité fréquentes qui vont casser l'ambiance. Quelques cocktails et morceaux de rock plus tard, nous redescendons dans la rue pour être entraînés dans une marée humaine joyeuse et bruyante. Un colosse noir, sans doute américain, me prend dans ses bras, chaleureusement, et les Népalais nous lancent des Happy New Year rigolards. C'est un tourbillon de joie dans lequel nous nous laissons porter. Plus tard, nous finirons la soirée en dansant sur de la techno et en buvant des tequilas offertes par le patron du bar.